On va prendre ensemble 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc la semaine dernière, on a vu deux aspects du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut se présenter avec amour, avec douceur. Et puis il peut aussi se présenter avec une verge et avec fermeté pour reprendre. C'est ce que Paul dit au chapitre 4, verset 21, le dernier verset. Et dans ce cinquième chapitre, on voit que l'Esprit là va parler durement, sévèrement, pour reprendre les frères de Corinthe. Donc il faut se souvenir, ils avaient une assez bonne opinion d'eux-mêmes. Donc ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs les uns par rapport aux autres. Et Paul ici va les doucher, si je peux dire, va les doucher un grand coup, en leur faisant part des rumeurs qui étaient entendues ailleurs, à l'extérieur de Corinthe. Verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et là, c'est une histoire dramatique. Donc, apparemment, un homme était veuf, on présume, remarié peut-être avec une femme plus jeune que lui. Et puis, le fils de cet homme avait des relations avec sa belle-mère. Et Paul dit, c'est même quelque chose, à l'époque, ça ne se voyait même pas chez les païens. Pourtant, on sait, la société romaine, comment elle était, débauchée, homosexuelle, la pédérastie, etc. Mais ça, même les Romains, ils le condamnaient. Ils disaient non, ça, on n'accepte pas. Et pourtant, ça se trouvait dans l'Église. Dans le livre du Lévitique, il est écrit, je vous lis, « Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. » Donc, pour Dieu, coucher avec la belle-mère, c'est comme coucher finalement avec sa propre mère. Et il dit, peine de mort en fait. Châtiment, c'est la mort. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire, nous qui ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais sous la grâce en Jésus-Christ ? Alors, Paul dit, ôtez-le du milieu de vous. Et ce n'était pas possible de garder une personne comme ça, faisant des actes irrépréhensibles à la fois par Dieu, mais aussi par les hommes. C'était incroyable de trouver ça dans l'Église. On a vu la dernière fois qu'il est dit que ne jugez de rien, laissez le Seigneur, il viendra, il mettra en lumière à son retour. C'est vrai, on doit juger de rien en ce qui concerne certaines choses, Puis en d'autres choses, alors là, il faut juger. Ici, il nous le dit, il faut juger. Et le jugement que l'on peut, que l'on est en droit d'exercer, c'est le jugement sur le péché, en fait, hein, sur des péchés ici qui sont mentionnés. Et ce passage, ça nous rappelle que Dieu, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de miséricorde, du pardon, mais il reste quand même sévère envers le pécheur qui ne se repent pas. Dieu peut pardonner, il veut pardonner, mais si l'homme se complaît dans son péché, s'il reste dans son péché, s'il n'est pas affligé, s'il n'est pas torturé, s'il n'est pas repentant, s'il n'a pas envie de l'abandonner, alors là, Dieu, eh bien, juge. Et il peut juger sévèrement, peut châtier. Regardez versets 3 à 4. « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Quel jugement opéré sur un chrétien qui commettrait un inceste comme ça, c'est l'exclusion de la communion du corps de Jésus-Christ. Et il dit qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Bien évidemment, la destruction de la chair, c'est la mort en fait. Qu'il soit livré à Satan, que Satan puisse le cribler, qu'il puisse faire ce qu'il veut sur lui, puisque eh bien, il est allé beaucoup trop loin. Et ça fait penser à Job, finalement, parce que Job, il est aussi livré, entre guillemets, à Satan. Mais la différence, c'est qu'avec Job, Satan eh bien, est toujours tenu en laisse par Dieu. Mais ici, c'est comme si Dieu lâche la laisse. Il dit maintenant, voilà, abandonné de Dieu, entre guillemets, là, livré à Satan. Et là, eh bien, Satan peut faire ce qu'il veut et même l'amener à la mort. Mais Paul ajoute une parole importante, il dit « afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus ». Et c'est vraiment important. La mort physique, mais l'esprit sera sauvé au jour du Seigneur Jésus, c'est-à-dire, eh bien, il est enfant de Dieu, il a cru en Jésus-Christ, il a été racheté, il a été scellé. Dieu dit « stop, tu ne pourras plus vivre sur terre, je te livre à Satan et tu vas mourir certainement, mais tu es quand même mon enfant, tu es quand même racheté pour l'éternité ». Le salut, c'est quelque chose de définitif. Certains se disent oh, « mais c'est trop facile la grâce. On croit, on est sauvé, on est pardonné, et puis hop, ça y est. » Le passage nous dit non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, on croit. Oui, on est sauvé par un acte de repentance, de foi. Mais si on se vautre dans le péché et dans l'iniquité, eh bien Dieu châtie. Et ici, on voit la sanction qui est prononcée par l'Assemblée, par l'Église. Donc, c'est un jugement collectif. C'est ensemble. Paul dit « vous ». Et mon esprit étant assemblé, voilà, on est tous ensemble, on prononce un jugement sur une personne parce que, voilà, il a fait quelque chose qui était inacceptable. Et Paul est choqué parce qu'il voit les frères de Corinthe qui ne sont pas choqués, justement, par ce péché. Il dit au verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Et c'est triste quand on voit les Corinthiens qui se sentaient les meilleurs. Et ici, on voit, ils étaient bien bas, en fait. Et Paul prend l'image du levain. Donc, le levain, c'est une levure naturelle qui fait fermenter une pâte. Et pendant très longtemps, c'était utilisé pour faire lever le pain. Il n'y avait pas de pain levé si on n'avait pas cette levure naturelle, le levain. Et dans l'idée de la fermentation, il y a comme l'idée de la contamination, en fait. Et c'est pour ça que le levain est devenu une image du péché. Quand vous voyez levain dans la Bible, eh bien, vous pouvez penser à péché. Parce qu'il y a vraiment cette fermentation qui contamine et qui est vraie aussi pour le péché. Le péché, quand ça commence à prendre de l'ampleur, ça touche et ça contamine autour de soi tout ce qui est autour de soi. C'est un petit peu comme dans la société. On voit ça se propage dans la société. C'est un petit peu comme à l'école, avec nos enfants, on voit, ça se propage dans la cour de récréation. Et c'est pareil dans l'église. On n'y manque pas, ça se propage aussi dans l'église, parce qu'on est des pécheurs, pécheurs graciés, mais toujours pécheurs, toujours avec cette propension, cette inclinaison vers le péché. Et il y a un mimétisme, qu'on le veuille ou non, ça, c'est là. Par exemple, quelqu'un va faire quelque chose qu'il ne faut pas, et l'autre va se dire, mais puisqu'il le fait, ben moi aussi. Ou bien, il va se dire, ben, le ciel ne lui tombe pas sur la tête, alors moi aussi je peux le faire. Et hop. Et par mimétisme comme ça, eh bien on commence à se laisser glisser. Il suffit, quoi ? Un moment où on ne va pas bien dans sa vie chrétienne. Un moment où on est déçu. Il y a quelque chose qui nous arrive, une déception, et puis oh, hop. Et puis là, on commence à faire ce qu'on a vu chez un autre chrétien. Et on pêche. Et c'est quand même triste de voir le péché qui est dévoilé dans l'Église de Jésus-Christ, alors que l'Église devrait refléter la pureté, la sainteté, la présence de Dieu. Et au contraire, eh bien, on y voit du péché. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. Donc l'Église est comme une ville sur une montagne, elle doit briller de la sainteté de Dieu, briller de la pureté, briller de la vérité. Et Dieu ne veut pas que, eh bien, on laisse le péché gonfler. Et un peu de levain dans une farine toute blanche, toute pure, eh bien, il y a des conséquences. Ça commence à se contaminer. Alors, eh bien, il dit, versets 7 et 8, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Il y a toujours un peu de levain qui peut rester dans notre cœur ou qui peut rester dans l'assemblée. Du levain qui reste là. Et en exhortant à faire disparaître le vieux levain, Paul fait référence à la fête des pains sans levain. Donc, pour resituer un petit peu, selon la Torah, la fête des pains sans levain, c'est le 15 de Nissan, donc le mois juif. Le 14, c'est la Pâque. Et le lendemain, c'est la fête des pains sans levain. Mais en préparation de la fête des pains sans levain, et les Juifs le font toujours aujourd'hui, pendant 7 jours, ils vont nettoyer la maison de fond en comble. Ils vont tout balayer, ils vont retourner les tiroirs, ils vont bouger les meubles, bouger les tapis, aspirer, passer les poussières. Il ne faut pas qu'il y ait un gramme de levain quelque part. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une miette de pain levée quelque part. Donc, on nettoie la maison de fond en comble. Ainsi, quand on arrive le jour de Pâques, donc le 14 de Nissan, normalement la maison est toute propre, elle est sans levain. Et puis le lendemain, eh bien on entre dans la fête des pains sans levain. Mais finalement les Juifs font tout ça, mais ils n'en voient pas la signification aujourd'hui. Et ainsi, si vous prenez cette image du fait de chasser le levain, de nettoyer en vue de la fête, eh bien vous l'appliquez à l'Église. Et là, ça devient compréhensible. Pourquoi on fait la fête des pains sans levain ? Mais c'est simplement parce que Christ a payé pour nos péchés. Et la fête des pains sans levain est juste après la mort de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Lors de la Pâque juive, Christ a été battu, il a été frappé, il a été flagellé. Il a été finalement crucifié sur le bois. Pendant ce temps-là, les Juifs étaient en train de sacrifier des agneaux pour la Pâque, dans le temple, devant le temple. Et puis Christ était en train de verser son sang, lui qui est l'agneau de Dieu. Et là, eh bien, à partir de ce moment-là, le pardon était possible, le pardon était accessible. Paul dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Et puis il ajoute « Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Et puisque Jésus-Christ a été immolé, puisqu'il a versé son sang, puisqu'il est mort, alors vous êtes sans levain. C'est beau ça, cette parole pour nous. Hein? On est sans levain, sans péché, purifié par le précieux sang de Jésus, comme Mohamed le relevait tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, on peut faire n'importe quoi. Alors Paul dit, étant pardonné, étant purifié, sans levain, eh bien, célébrons donc la fête, maintenant, mais non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Pourquoi, en fait, finalement, on va revenir à notre condition passée ? pourquoi on va reprendre la pratique de nos anciens péchés, et ou bien pourquoi on va rester dans des péchés qui sont graves quand même, hein, qui vont nous couper de la communion avec Dieu, avec le corps de Christ. Et on en vient à la question de la discipline. Parce que Paul exerce la discipline en prononçant une parole d'excommunication, finalement, envers cette personne qui était incestueuse. Et je lisais donc que excommunication, ça vient du latin « excommunicar », hein, « mettre hors de la communauté », on peut dire « hors de la communion », en fait, hein, avec les frères. Versets 9 et 10. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Et il y a un mot qui revient dans le passage deux fois, c'est le mot « relation ». Et ce mot « relation », il n'apparaît que trois fois, donc le mot grec, il n'apparaît que trois fois dans le Nouveau Testament, donc deux fois ici dans notre passage, et la troisième fois, c'est dans un autre passage, c'est en 2 Thessaloniciens, peut-être on peut le prendre. 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et versets 6 à 15. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à cette lettre, nous n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, pardon, mais avertissez-le comme un frère. Et là, on retrouve donc ce mot « relation » dans le verset 14. Il dit « N'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » Et le mot grec, donc traduit par « relation », signifie « mêler ensemble, se tenir en compagnie avec » être intime avec quelqu'un, fréquenter. Donc il y a l'idée vraiment de se rapprocher, de se coller, de s'unir, même mêler ensemble, c'est très fort, hein, très fort. Et quand on voit ça, ben c'est de manière évidente la communion fraternelle en fait, hein. C'est l'idée d'avoir une communion d'âme, communion d'esprit. Ne pas avoir de relation, c'est ne pas avoir de communion d'esprit. Communion d'âme avec la personne. Dans ce passage de 2 Thessaloniciens, je bégaye beaucoup ce matin, il y a un autre terme intéressant, c'est Paul qui dit au verset 6, regardez, 2 Thessaloniciens 3, 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. » Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme « éloigner »,« s'éloigner » ? Dans le grec, c'est un mot facile, c'est « stélo ». Et ça signifie « équiper, préparer, amener ». Et là, on ne voit pas trop le lien. Mais si on continue, on avance un peu dans les définitions de ce mot, il y a l'idée d'amener. Et puis, on en vient à conduire, accompagner, amener à soi, ramener à soi, faire venir, mander. Faire venir quelqu'un dans sa maison. Et là, vous avez peut-être le sens hein, que Paul veut donner à ce terme de stélo. Dieu ne veut pas qu'on ouvre notre porte à quelqu'un qui est dans une situation de péché, qui ne confesse pas, qui ne rejette pas. Il y vit, ça va bien, tout va bien. Dieu ne veut pas ça. Il y a certaines choses qui coupent de la communion avec les frères et sœurs. On ne peut plus se mêler ensemble, on ne peut plus avoir une vraie communion fraternelle, vraie communion d'esprit. Le péché dans la vie d'un frère, d'une sœur, ben coupe. Il y a une coupure, une séparation. Et donc, il y a question de maintenir une certaine distance. Pourquoi ça ? Paul explique dans Thessaloniciens, il dit « afin qu'il éprouve de la honte ». Afin qu'il éprouve de la honte. Donc, le péché dans lequel il est n'est pas une situation normale. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Ce n'est pas quelque chose où, voilà, on passe au-dessus, bon, ben, c'est comme ça hein, maintenant. C'est la fatalité, hein, c'est la résignation, on va l'accepter. Si on est chrétien, si on est maintenant sans levain, si on est maintenant une pâte nouvelle, née de nouveau, alors les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, on ne peut pas faire comme si de rien n'était et que ce n'est pas grave et puis accepter le péché dans notre vie ou dans la vie d'un frère, d'une sœur. Un chrétien ne devrait jamais cesser de lutter contre son péché. On a du péché dans nos vies. Mais quand on capitule et on ne lutte plus, là, on est perdant. C'est là où on est perdant. Vous avez quelque chose dans votre vie, vous savez que ça ne va pas, mais luttez ! Luttez ! Si vous luttez, vous êtes du côté de Dieu, Dieu est de votre côté. Si vous arrêtez de lutter, vous perdez quelque chose. Il faut lutter. Si on ne lutte pas, finalement, c'est quoi ? C'est de la rébellion. On est rebelle à Dieu. D'une certaine manière, on rejette Dieu dans sa vie. En tout cas, peut-être sur un aspect de sa vie. Eh bien, ça a des conséquences, particulièrement ici, pour ces choses aussi graves. Et l'une d'elles, c'est que cette personne n'a plus le droit à la communion intime, proche, avec le corps de Christ. Alors, eh bien, comme Paul dit, c'est pas qu'il devienne un ennemi, mais il faut que lui comprenne qu'il est dans une situation qui est bancale, qui est coupable, qui est répréhensible devant le Seigneur, qui est mauvaise, qui est honteuse. Il faut qu'il le comprenne. Le Saint-Esprit lui dit, il faut que l'Église lui envoie le même signal. Que l'Église, le corps de Christ, dans son entier, le lui dise. Pas forcément avec la parole, hein, vous le comprenez bien. Quoique, avertissez-le comme un frère. Avertissez-le comme un frère. Donc, aussi le dire. Paul dit de ne pas même manger avec une telle personne. Et quand on considère un repas, c'est un moment d'intimité. C'est un moment de communion. On est à table, on n'est pas là pour manger quand on prend un repas ensemble. On est là surtout pour être ensemble et partager, converser. C'est une communion à table. Hein. Il y a une communion, il y a un échange. Eh bien, on ne peut plus faire ça avec quelqu'un qui est encore dans le péché. Et je pense que c'est là ce que Dieu attend de ses enfants, de ne pas faire comme si de rien n'était, mais vraiment de dire, mais il y a un problème, il existe. Le péché, il est sérieux, il faut le considérer comme tel. Hier, on était à table et on parlait du monde hein, aujourd'hui et sur le fait que c'est un petit peu comme les grenouilles, vous les mettez vivantes hein, dans de l'eau froide hein, ou tiède et puis petit à petit vous augmentez la température hein, puis la grenouille ne sent rien du tout, tout va bien. Vous la jetez dans de l'eau bouillante, là elle essaye de sauter, hein, mais dans de l'eau comme ça, bien petit à petit. Et le monde est vraiment comme ça. Si vous regardez la télévision, eh bien c'est comme des grenouilles qui sont en train de chauffer. Vous regardez tous les programmes télé, tous les films, toutes les publicités, vous laissez progressivement la chose, hein, vous la regardez, vous apercevez que vraiment les gens, ils sont en train de chauffer, ils ne s'en aperçoivent pas. Bien sûr, si vous leur dites, si, moi je vois bien que ça a changé, je vois bien le mal, mais je rentre chez moi et puis je regarde les publicités, je regarde les films, je regarde ceci, je regarde cela, où il y a une dégradation vraiment. Hein. Mais non. Moi, j'ai bien les yeux ouverts, hein. Mais je vais accepter d'entendre de la vulgarité, je vais accepter de regarder de l'impudicité, je vais accepter de me nourrir de la violence. Tout va bien. Il y a un changement qui est progressif, lent mais inexorable. Et à la fin, l'âme, elle devient une poubelle. On a tout ça dans la tête. Toutes ces pensées, toutes ces images, toutes ces paroles, on devient une poubelle. Et Dieu ne veut pas que son Église, qu'il a rachetée justement au précieux sang de l'agneau, s'habitue au péché qui devient en bien. Il faut qu'on soit toujours choqué. Et, oh, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous êtes habitué, ça ne vous fait plus rien, alors eh bien, c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu ne change pas. Lui, il est toujours saint, il est toujours pur, il est toujours parfait. Et lui, il est toujours choqué par le péché. C'est pourquoi il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas le tolérer. Il ne faut pas accepter qu'il y ait une dégradation morale au sein du corps de Christ, au sein de l'Église. Alors, qui cela concerne? Ici, Paul dit « quelqu'un se nommant frère ». Donc, il n'est pas en train de dire « mais c'est fini, hein, quelqu'un qui est dans la débauche, quelqu'un qui est cupide, hein, plus de relation ». Non, il dit « quelqu'un se nommant frère ». Bien sûr, on a un contact avec les gens du dehors, heureusement, et il faut garder ce contact. Il faut les amener au Seigneur. Donc, on ne va pas se couper des gens du dehors. Au contraire, on va aller chercher à les attirer. Mais quelqu'un qui est frère ou qui se nomme frère, alors là, ce n'est pas pareil. Là, ça change tout. Celui qui s'estime sauvé, alors, eh bien, qui aurait ou qui a l'Esprit de Christ, hein, eh bien, il faut que sa vie soit en conformité avec sa foi. S'il croit, eh bien, il faut aussi qu'il suive ce qu'il dit, qu'il croit. Quels sont les péchés que cela concerne? Alors, Paul donne une liste, certainement qui n'est pas exhaustive, mais en tout cas des choses qui paraissent quand même importantes. Donc, il parle de ravisseur. Ravisseur, ben, c'est un voleur, en fait, quelqu'un qui extorque. Hein. S'il y avait encore quelqu'un qui vole, ben, c'est terrible, ça. Hein, il faut vraiment que ce soit rejeté, hein, que ça ne doit pas exister dans l'Assemblée. Il parle de l'ivrognerie et l'enfant de Dieu n'est pas en droit de se saouler. Non, c'est terminé. Il faut qu'il se coupe de ces choses. Il parle de outrageux. Donc, la définition, c'est quelqu'un, donc je regardais à chaque fois le grec, hein, quelqu'un qui raille, qui insulte les autres. Finalement, c'est comme c'est la haine, en fait. Hein. Quelqu'un qui a de la haine pour ses frères et qui les insulte. Ça, ce n'est pas acceptable, pas tolérable. Ensuite, il dit « idolâtre ». Donc, ça fait certainement référence à l'idolâtrie avec l'idée des démons aussi, hein, qui est derrière. Et pour eux, eh bien, ça les concernait particulièrement par rapport à la viande qui était sacrifiée aux idoles et ce genre de choses. Hein, pour ceux qui, voilà, ils avaient un doute sur la chose, mais ils le faisaient quand même. Ben là, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Comme si, eh bien, quelqu'un continue à être partagé entre la lumière et les ténèbres. C'est troublant quand même. Hein? D'ailleurs, Paul dit quelqu'un se nommant frère. Paul ne dit pas quelqu'un qui est un frère. Ça veut dire que ben, parfois, il peut y avoir quelqu'un qui va faire des choses qui sont vraiment... On se dit, mais c'est pas possible qu'un chrétien fasse une chose pareille. Mais peut-être il n'est pas chrétien. Alors, eh bien, hop, hein, il se dit chrétien. Alors, eh bien, on le repousse parce qu'il y a un vrai problème. Et puis, il parle ensuite des cupides. Donc, c'est une ambition orientée vers les biens, vers l'argent, vouloir ce qui appartient aux autres, essayer hein, de l'obtenir. Et puis, enfin, il parle des débauchés ou des fornicateurs, selon votre traduction. Donc, chose qui a trait à cette personne incestueuse. Et le terme traduit par débauché, c'est le terme pornos. Pornos, c'est quelqu'un qui se prostitue ou quelqu'un qui a des relations sexuelles illicites, c'est-à-dire en dehors du mariage. Quelqu'un qui n'est pas marié et qui a des relations sexuelles. À noter qu'il y a un autre terme qui est spécifique pour la femme, c'est porné. Donc c'est une femme de mauvaise vie, quelqu'un qui se prostitue hein, ou qui vend son corps, hein, une femme qui se satisfait d'une relation sexuelle illicite, donc en dehors du mariage. Donc finalement, ça se résume par un mot, hein, tout ce qui a trait au sexe en dehors du mariage, c'est porneo, porneo, c'est-à-dire la débauche en fait, tout ce qui est la débauche. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait de la débauche dans son corps. Même si le monde l'accepte aujourd'hui, hein, les gens nous regardent avec des yeux comme ça, ben nous, on ne doit pas l'accepter. Ce n'est pas acceptable. Et il ne faut pas faire comme s'il n'y a rien. Le but, ce n'est pas de rejeter, ce n'est pas de mépriser, faire attention, hein, ce n'est pas de regarder de haut hein, ou de jeter des regards qui soient mauvais. Hein. Il est dit aussi, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Alors, on n'aimerait pas que ça nous arrive aussi, hein, peut-être d'une autre manière, mais que ça nous arrive. Mais le but, c'est lui permettre de réfléchir hein, et de comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui a changé dans sa relation avec Dieu, quelque chose qui a changé dans sa relation avec ses frères et avec ses sœurs. Et ça sera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une mise en règle, en fait. Si la personne se met en règle, ben, voilà, ça change. Et donc, il y a des cas où c'est nécessaire de juger, particulièrement quand il s'agit du péché dans l'assemblée. Certains disent « Ah, oh, mais il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Jésus a dit « il ne faut pas juger ». Ben si, il faut juger. Des fois, il faut juger. Des fois, c'est vrai, il ne faut pas juger. Et d'autres fois, eh ben, c'est nécessaire de juger. Versets 12 et 13, pour terminer. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Et donc, cet homme incestueux, eh bien, on lui a demandé de partir. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on doit mettre obligatoirement dehors quelqu'un qui commet l'un de ses péchés hein? Ça invite à se poser la question. Finalement, je pense que c'est à l'église locale de se prononcer au cas par cas, selon les personnes. Et très certainement, ça dépend de l'attitude, finalement, de la personne. Est-ce que la personne veut renoncer à son péché? Est-ce qu'elle veut vraiment se mettre en règle? Ou bien elle l'accepte et tout va bien et elle peut continuer ainsi pendant longtemps. Que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide à avoir les yeux ouverts, à l'aimer, à avoir du discernement, à avoir de l'amour, de la fermeté, de la grâce, de la sainteté. Que Dieu nous aide et qu'il bénisse chacun.